Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute du programme en langue française de Radio Prague International. Comme chaque samedi, vous le savez, c'est un programme très culturel que nous vous proposons pour la prochaine demi-heure en votre compagnie. Un programme dans lequel il sera question d'un éditeur épris de liberté qui, malgré toutes les difficultés de l'entreprise, conserve son indépendance en publiant lui-même ses livres. Mais tout d'abord, place au cinéma avec un film consacré à la vie et à l'œuvre d'un compositeur amphibie. Vous allez tout de suite mieux comprendre. Très bonne écoute de Radio Prague International. Vous êtes des auditeurs fidèles de Radio Prague International et vous pensiez tout savoir sur la musique tchèque et pourtant le nom de Jan Kapr ne vous dit rien. C'est normal, lauréat du prix Staline, devenu critique indésirable du Parti communiste, ce compositeur tchèque avait été évincé de la scène musicale, mais Lucie Kralova a sorti Jan Kapr de l'oubli avec un film biographique, musical, sonore et visuel. Anaïs Rimbaud nous en dit plus.
Récompensé du prix du meilleur film tchèque au Festival international du film documentaire Jihlava 2022, Kapr Kot est un film à la croisée des genres. Présentant la vie et l'œuvre du compositeur tchèque Jan Kapr, ce film peut s'avérer un peu déroutant, même pour les spectateurs musiciens dans l'âme. La réalisatrice Lucie Kralova décrit le parti pris de cette biographie à la forme tout sauf classique.
Kapr Kot est un opéra documentaire. Il est pensé comme une expérience visuelle, un accès à l'univers de Jan Kapr, qui filmait de drôles d'archives de sa vie. Nous essayons de coder sa vie à travers cet opéra. Ce film, c'est un peu comme jouer à l'opéra. L'excellent orchestre philharmonique de Brno, qui joue des mises en scène stylisées, et les chanteurs d'opéra chantent l'histoire de Kapr. Et pour terminer la composition, il y a les films 8 mm originaux tournés par Kapr. C'est un film hybride, un peu opéra, un peu théâtre, un peu concert, un peu film, c'est tout cela à la fois.
Précisons que la bande originale associe la musique de Jan Kapr ainsi que celle composée pour le film par Petra Šuško. Le tout interprété et mis en scène par le chœur philharmonique tchèque de Brno sous la direction du chef de chœur Petr Fiala, d'ailleurs autrefois élève de Jan Kapr. Un film biographique à la forme inhabituelle qui n'a néanmoins pas dérangé le critique musical Boris Klepal, comme il l'a expliqué au micro de la radio tchèque.
La fonction de l'art, ce n'est vraiment pas de tout dire trivialement à propos d'un sujet donné. Pour avoir ce genre d'informations, on peut consulter le dictionnaire musical tchèque des personnes et institutions. C'est disponible en ligne et la vie et l'œuvre de Jan Kapr y sont bien détaillées. Ou bien, on peut lire le livre sur Jan Kapr, écrit par Ingriska Bartova, qui apparaît d'ailleurs dans le film Kapr Kot. Donc pourquoi attendre du film qui raconte que Jan Kapr est né telle année, à tel endroit, et qu'il a été influencé par telle ou telle personne? Ce n'est pas à cela que servent les films.
Zemřel, mnozí ho ovlivnili, on mnohé ovlivnil a tak, jo, to prostě od toho nejsou filmy.
Pour ceux qui apprécient l'art, mais aiment également les dates et autres informations factuelles, faisons toutefois un petit tour du côté de ce dictionnaire musical tchèque des personnes et institutions, à l'entrée Jan Kapr. Né en 1914 à Prague, dans une famille de musiciens, Jan Kapr montre des talents pour la musique dès l'enfance. Mais c'est la gymnastique qui est sa première passion. Il se consacre intensément aux agrès. Néanmoins, en 1930, lors d'un entraînement aux anneaux, ceux-ci se brisent et Jan Kapr tombe sur le dos. Une chute qui le rend inapte à la gymnastique et qui constituera un handicap à vie. À 16 ans, Jan Kapr se tourne alors vers la musique et étudie la composition au Conservatoire de Prague. Entre 1939 et 1946, Kapr travaille comme directeur musical pour la radio tchécoslovaque à Prague. Son talent de compositeur attire l'attention. En 1948, son Scherzo symphonique Marathon remporte la médaille olympique au concours de composition de Londres. En 1945, Jan Kapper adhère au Parti communiste et, après le coup d'État de février 1948, il consacre son œuvre au nouveau régime socialiste. Il a écrit plus de 60 chants de propagande, dont « En terre soviétique ». Il séjourne à Moscou où il travaille sur la musique du film « Nouvelle Tchécoslovaquie », pour laquelle il reçoit le prix Staline 1951. Outre la composition, Jan Kapper est également critique musical et journaliste, et il occupe diverses fonctions dans des journaux, maisons d'édition musicale et organismes officiels. En 1953, sa vie et son engagement prennent un tournant fondamental. Après la mort de Staline et de Gottwald, Jan Kapper cesse de s'engager politiquement et socialement. Il demande la révocation de son adhésion au Parti communiste, ce qui ne lui est pas accordé, sous prétexte qu'un lauréat du prix Staline ne peut pas rendre sa carte du parti. Il se retire alors de la vie publique. C'est une période au cours de laquelle il compose des œuvres de nature plus intime, puis des symphonies. Entre 1961 et 1970, Jan Kapper enseigne à l'Académie Janáček des arts musicaux à Brno. C'est là que Petr Fiala, le chef de chœur précédemment mentionné, suit ses cours. À partir des années 60, il commence à développer une technique de chiffrage créant une forme rythmique différente du motif de base et ayant recours à la musique aléatoire ainsi qu'à des composantes vocales sans parole. Dans les années 60 aussi, il reçoit plusieurs récompenses nationales et internationales. En 1968, nouveau tournant. Alors qu'il terminait son travail sur la partition de sa symphonie numéro 7, les troupes du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie. Jan Kapper répond en publiant une lettre ouverte à Dmitri Shostakovich et en rendant son prix Staline à l'ambassade soviétique. Une prise de position qui lui a coûté cher, comme l'explique le critique Boris Klepal.
Cela lui a pris un peu de temps, mais comme beaucoup, il a ouvert les yeux en 1968 et a pris position contre l'occupation soviétique. Et cela lui a d'ailleurs coûté sa carrière.
En effet, après cette lettre, Jan Kapper est totalement réduit au silence pendant la période de normalisation. Exclu du Parti communiste, il n'est plus autorisé à enseigner et ses œuvres ne peuvent être jouées, du moins en Tchécoslovaquie. Comme l'explique la compositrice de la bande originale du film Kapper Kód, Petra Šuško.
Il savait profiter intelligemment du système, car alors qu'il était encore fonctionnaire et président de l'Union des compositeurs, il profitait de voyages organisés, autorisés en Europe de l'Ouest pour nouer des liens qu'il entretenait par la suite. Ainsi, même alors que ses œuvres n'étaient plus jouées en Tchécoslovaquie, il utilisait ses contacts étrangers pour que ses œuvres soient jouées à l'étranger, où il était ainsi populaire.
Malgré sa mise à l'écart dans son propre pays, Jan Kapper continue à composer dans la solitude de son appartement pragois. Sa dernière œuvre est le concerto en mi et sol pour piano et orchestre, écrit en mémoire du pianiste soviétique Emil Gilels. Il décède en 1988. La réalisatrice Lucie Kralova revient sur ce qui lui semblait particulièrement intéressant dans la vie du compositeur et sur la façon dont le documentaire Kapper Kód a vu le jour.
Jan Kapper est un compositeur complètement oublié qui a été effacé de la mémoire officielle. Peu le connaissent. Sa fille vit dans l'appartement de Vinohrady où lui-même vivait. S'y trouvent également des archives conséquentes, mais laissées telles quelles. Des caisses de lettres, de bandes magnétiques et environ 6 heures de films 8 mm. Avec le librettiste Jiří Adámek et la compositrice Petra Šuško, nous avons dû pomper toute l'histoire, recomposer la vie de Jan Kapper à partir de ses caisses. Jan Kapper était une personnalité ambivalente et l'un des auteurs tchèques de chansons de propagande les plus prolifiques. Il a connu une métamorphose dans sa vie. De personnalité éminente de la propagande, il est devenu dissident en 1968 lorsqu'il a écrit une lettre de protestation à Dmitri Shostakovich. Mais ce n'est pas tellement ce qui m'intéressait, car je pense que ce genre d'histoire est assez connu et la vie de Jan Kapper n'est qu'une variation fiction, de ces histoires de métamorphose de communistes convaincus d'après-guerre. Ce qui m'intéressait, c'était ce qu'il a laissé, notamment par le biais de ses films, qui étaient bien filmés, avec d'excellentes scènes, parfois jouées, et très drôles. D'un seul coup, j'ai vu comme une aventure le fait d'essayer de comprendre une personne morte depuis longtemps, en 1988, à travers les empreintes qu'elle avait laissées. Un travail d'archéologue, en quelque sorte.
Porozumieć tomu odkazu. Takže to byla taková archeologie něčím.
Sans débiter de date, mais avec des images et des sons, le film de Lucie Králová présente chronologiquement la vie personnelle et professionnelle de Jan Kapr. On y découvre un homme drôle, qui aime se mettre en scène dans des films amateurs muets en 8 mm et prendre du bon temps, comme le précise Boris Klepal.
Il ressort de ce film que Jan Kapr était un vrai narcisse, qu'il était heureux de vivre et qu'il appréciait toutes sortes de jouissances physiques. Ce film m'a plu parce qu'il évite non seulement le format habituel et cliché de tête qui parle, mais aussi l'adoration d'une personnalité, qui est, je pense, le fléau de la musique tchèque et peut-être de l'art tchèque et du monde artistique tchèque en général. Évidemment, Jan Kapr n'incite pas à une adoration inconditionnelle, car ses compositions stalinistes ne peuvent être effacées. On ne peut cependant nier ce qu'il a composé par la suite, ni nier qu'il était un compositeur vraiment doué.
Parmi les œuvres composées par Jan Kapr au cours des différentes périodes de sa carrière, Lucie Králová a sa favorite.
De toute l'œuvre de Jan Kapr, la pièce qui me semble exceptionnelle, ce sont les poèmes de Morgenstern qu'il a mis en musique dans une série de poèmes intitulée Guten Morgenstern et enregistrée en 1972 par le chœur de la radio de Hambourg. Il s'agit du recueil de poèmes Les chansons du JB. Je dois dire qu'une des choses qui m'ont particulièrement amusée, c'est que dans les petits films qu'il a tournés, ce compositeur dont le nom de famille signifie carpe était sans arrêt en train de se baigner dans la rivière. Et en plus, il est du signe des poissons, comme moi d'ailleurs, et comme le librettiste Jiří Adámek, ainsi que le fantastique chef de chœur du chœur philharmonique tchèque de Brno, Petr Fiala. L'une des pièces de la série des poèmes de Morgenstern s'appelle « Chant nocturne des poissons ». Elle joue avec différents sons de clapotis et autres bruitages de poissons que nous utilisons, nous aussi, dans le film.
Kapr Kod est donc un film biographique à la qualité sonore et visuelle telle qu'il mérite d'être visionné sur grand écran plutôt que sur celui de votre ordinateur. En espérant que le prix reçu à Jihlava lui permette de se trouver une place dans la programmation des salles de cinéma, car comme Lucie Králová l'a expliqué lors de la cérémonie de remise des prix, ce documentaire à la forme éloignée des productions grand public n'a pour l'instant aucune distribution d'assurée.
Voilà, merci donc à Anaïs Rimbaud pour cette rubrique consacrée au film biographique consacré à Jan Kapr. On retrouve maintenant, comme chaque samedi, la rubrique littéraire préparée par Václav Richter, une rubrique dans laquelle il est question cette semaine d'Aleš Kauer, un éditeur épris de liberté.
Rencontre littéraire. Publier un livre est un processus compliqué. Les auteurs le confient en général aux maisons d'édition qui disposent de tout l'appareil technique et administratif nécessaire. L'auteur et éditeur Aleš Kauer fait exception à cette règle car il réalise et surveille tout le processus de la naissance d'un livre du début à la fin. C'est ainsi qu'il conserve la valeur qui lui est la plus chère, son indépendance. « Aleš Kauer possède une petite maison d'édition dans la ville de Jihlava, située à peu près à mi-chemin entre les deux plus grandes villes tchèques, Prague et Brno. Il publie surtout de la poésie, donc un genre minoritaire et peu lucratif, et il ne reçoit pas de subventions. Il ne peut donc compter que sur lui-même et sur un cercle d'amis et de sympathisants.
Vzhledem k tomu, že jsem naprosto nezávislý a vždycky jsem si na tom docela zakládal na té nezávislosti.
Comme je suis complètement indépendant et que j'ai toujours tenu à conserver cette indépendance, je suis obligé de pratiquement tout faire moi-même. Depuis le choix des auteurs, en passant par la présentation graphique, jusqu'au choix du papier, tout cela ne dépend que de moi. À vrai dire, ce n'était pas comme ça tout au début. Pendant les premières 5 années de mes activités, je me suis cherché pour publier des livres. J'ai essayé de collaborer avec des bibliothèques publiques. En ce temps-là, je vivais encore dans la ville de Schumperk et c'est à cette époque que j'ai compris que dépendre de quelqu'un était bien compliqué.
Bien que la maison d'édition d'Aleš Kauer travaille sans subvention et sans le soutien de grands réseaux de distribution, elle a déjà publié une 40aine de titres. Elle s'appelle Adolescent, l'adolescent. Aleš Kauer explique pourquoi il a choisi ce nom.
C'est un mot qui exprime au fond la recherche. Pendant l'adolescence, les gens se cherchent et cela demande un certain courage de leur part. Si vous dirigez une si petite maison d'édition, si vous la financez à partir de vos propres ressources et si de surcroît vous publiez de la poésie, c'est même un peu fou.
Il n'est pas donné à tout le monde de réussir une telle entreprise. C'est un projet exceptionnel qui exige aussi des qualités exceptionnelles, multiples et éclectiques. Aleš Kauer est donc obligé d'exercer pratiquement tous les métiers de l'édition. Poète, il est non seulement auteur d'une partie de la production de sa maison, mais il est également éditeur, lecteur, graphiste, illustrateur et même relieur et distributeur des livres qu'il publie. Et il y ajoute encore son talent pour la musique. Le livre devient pour cet homme orchestre un média idéal, une espèce de Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire une œuvre d'art totale qui réunit tous les arts. Pourtant, il avoue.
Je suis autodidacte dans toutes ces disciplines. Il y a une 20aine d'années, je montais des expositions avec quelques amis, mais avec le temps, cela a perdu son intérêt pour moi. La dimension de cette activité me semblait bien limitée et j'ai découvert petit à petit dans les livres cette dimension qui me manquait. Le livre est une œuvre accomplie qui réunit le contenu littéraire, les aspects d'une œuvre d'art et à l'époque actuelle, il peut être accompagné aussi de diverses bandes-sons. C'est ce que j'ai fait, par exemple, en écrivant mon livre de poésie intitulé « Happy End », pour lequel j'ai écrit aussi de la musique, une musique qui a inspiré aussi ma poésie.
Il va de soi que le tirage des livres publiés de cette façon est relativement modeste. Il s'agit souvent d'œuvres de jeunes poètes qui ne sont pas encore connus et qui cherchent à se faire entendre par un public complice et sans idées préconçues. Dans le catalogue de la maison Adolescent, on trouve cependant aussi un livre de correspondance entre le poète Mirek Kovářík et la poétesse Svatava Antošová. C'est un hommage rendu à Mirek Kovářík, qui était un grand propagateur de la jeune poésie et qui a sacrifié une grande partie de sa vie à découvrir de nouveaux talents. Pendant de longues années, il a animé à la radio publique tchèque une émission intitulée Zelené peří, le plumage vert, dans laquelle il donnait l'occasion aux poètes et poétesses en herbe de sortir de l'anonymat et de réciter leurs vers. Plusieurs générations d'adeptes de la littérature lui sont donc redevables et nombreux de ses débutants se sont imposés depuis sur la scène littéraire. Parmi eux, il y avait aussi Aleš Kauer.
Je ne sais pas si nous publierons encore des lettres de quelqu'un d'autre, mais la correspondance de Mirek Kovářík est exceptionnelle, car il était intimement lié avec la poésie et aussi avec nous. Malgré la différence d'âge, il a toujours trouvé le moyen de se joindre à nous et il a très bien su s'intégrer dans notre collectif. Et surtout, il nous a tous aidés. Il y a 15 ans, Il m'a invité pour la première fois dans son émission de la jeune poésie Le Plumage Vert et il m'a réinvité encore à plusieurs reprises. Nous avons participé à des lectures publiques de poésie qu'il organisait. Il me recevait aussi chez lui et nous parlions des choses les plus diverses. C'était un homme excellent.
Povídali jsme si o různých věcech a byl to strašně fajn člověk.
Avec le temps, un cercle d'amis et de proches s'est formé autour de la maison adolescente. Il s'agit en partie de membres de la communauté queer qui sont particulièrement sensibles à la production de la maison. C'est grâce à la complicité de ces soutiens que la maison peut subsister. Ils se transmettent des informations sur les titres récemment parus, ils achètent et lisent ces livres introuvables dans les librairies et ils font aussi tout naturellement la publicité de la maison adolescente parmi leurs amis et leurs connaissances. Et bien sûr, il participe volontiers à des manifestations littéraires que l'éditeur Alechkauer organise avec ses proches collaborateurs.
Děláme festival právě taky s Honzou Spěváčkem, s tím kamarádem.
Avec le poète Jan Spěváček, nous organisons un festival que nous avons appelé Kvílení, Lamentation. Les différentes manifestations du festival sont présentées dans le parc Gustave Mahler au centre de la ville de Irlava. Et tous les ans, nous choisissons un patron du festival qui est par exemple un poète dont nous célébrons un anniversaire ou qui a tout simplement suscité notre intérêt. Nous y invitons les gens qui entretiennent des contacts avec la maison adolescente, nous y vendons des livres, etc. Nous essayons donc toujours de vivre et de créer ensemble de cette façon communautaire.
Pořád nějakým takovýmto komunitním způsobem se snažíme žít, tvořit a být spolu.
On arrive ainsi au terme du programme préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Merci de votre attention. Merci également de votre fidélité et à très bientôt, si possible, dès ce dimanche, à l'écoute de nos programmes. Ahoy, bon week-end.